Vous écoutez France Culture.
François-Mickey Marty.
Oui, merci, parce que le panorama historique sur le sens que l'on donne à cette crise, je crois, est essentiel. Et effectivement, aujourd'hui, il apparaît que la crise est dans la société française et donc attribuée à nos propres comportements. Et il y a eu, de façon très frappante, en quelques années, une inversion des significations. C'est-à-dire cette crise qui émanait du lointain, désormais émane d'ici. Et par conséquent, on reconstitue des univers qui sont censés être des univers plus protecteurs. Je crois que c'est la première raison, au fond, de ce bonheur individuel. Ne nous y trompons pas néanmoins. Dans la longue durée, c'est-à-dire des années 60, longue durée relative des années 70 jusqu'à 2008, on avait régulièrement 90% des Français qui se déclaraient à titre personnel heureux. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. C'est-à-dire que malgré tout, même si les Français, chacun d'entre nous, se déclare plus heureux que ne l'est l'ensemble de la société, on a eu quand même, si l'on peut dire, une décrue très massive du bonheur individuel en quelques années. Néanmoins, effectivement, la cellule familiale locale est un élément de protection. Et puis le deuxième élément qui est très important, c'est une capacité d'action. C'est-à-dire là où je vis, là où je suis, avec mes proches, avec mes voisins, je peux peser, je peux avoir une influence, je peux construire peut-être une vie, éventuellement un destin. Au niveau national, nous sommes en train de réaliser une étude là-dessus, au niveau national, on a le sentiment d'une société bloquée, c'est-à-dire au fond d'un engrenage où, selon lequel le coût de la vie est de plus important, les impôts sont de plus importants, le chômage est de plus important, et où les alternances politiques ne suffisent pas à résoudre ça. Dans mon quotidien, j'ai une marge de manœuvre.
Alors j'ai quand même juste, pardon, une bonne nouvelle. Une dépêche Reuters est tombée à 6h45. C'est un de vos concurrents et amis qui a réalisé pour BFM un sondage sur le moral économique BVA pour Axis Consultant. Selon cette enquête effectuée les 29 et 30 août dernier, la dépêche est toute fraîche, auprès de 1000 personnes, 37% des Français sont plutôt plus confiants dans l'avenir économique de la France, soit 12 points de mieux qu'il y a deux mois. Certes, 59% des personnes interrogées se disent quand même moins confiantes, mais, souligne la Dépêche, c'est 14 points de moins que dans la précédente enquête. Donc, vous aviez raison, ça va quand même un peu mieux.
Ça va un peu mieux, mais lorsque vous demandez aux Français s'ils ont confiance en l'avenir de la France, en l'avenir des États-Unis, en l'avenir de l'Angleterre, en l'avenir de l'Allemagne, ils ont confiance en l'avenir des États-Unis, de l'Angleterre et de l'Allemagne, pas en l'avenir de la France. Donc ça va un peu mieux, effectivement, il y a une bouffée d'oxygène, mais d'une certaine manière, les fondamentaux du malaise français sont toujours présents.
Alors Agnès Benassi-Carré.
Oui, pour aller un peu dans le sens de Brice Couturier, moi je rencontre souvent des investisseurs anglo-saxons qui ne comprennent pas du tout l'économie française, pourquoi on n'arrive pas à redresser ça, qui voient que la société française est en effet en dépression, mais il y a vraiment quelque chose qu'ils ne comprennent pas, c'est la démographie. Ils disent, si vous êtes si déprimé, pourquoi avez-vous autant d'enfants? Et j'ai du mal à leur expliquer. Est-ce que vous pouvez me donner une explication?
François-Mickey Marty.
Je ne sais pas qui a une explication simple. Je crois que il y a d'abord des politiques d'aide familiale qui sont très importantes.
On les démantèle les unes après les autres. On vient d'en apprendre une nouvelle ce matin.
Mais elles existent. Dans la longue durée, elles sont là.
Une nouvelle niche fiscale pour l'année prochaine, pour l'éducation des enfants, va être supprimée. On apprend une de plus, vous savez, comme le quotient familial qui est attaqué aussi. Donc, progressivement, on va peut-être arriver à démanteler cette politique démographique extrêmement familiale, extrêmement favorable à la démographie.
Et puis, encore une fois,
le gouvernement s'en charge.
Davantage confiance en son propre avenir et en celui de sa propre famille plutôt qu'en celui de la société de manière générale. Oui, donc, on construit sur soi en essayant de protéger ses propres enfants.
Enfin, c'est quand même un peu compliqué de se déconnecter complètement de ce qui est. Enfin, de dire le pays n'a aucun avenir, mais moi, j'en ai un.
Mais Agnès en a fait des enfants pendant l'occupation. Le baby boom a commencé en pleine occupation. Ça prouve bien qu'il n'y a pas un rapport de cause à effet entre l'optimisme général.
Il fallait s'occuper.
Et... c'est peut-être votre explication, Marc. Mais c'est vrai qu'il y a eu. Le baby boom a commencé, on l'oublie toujours, en pleine occupation. Donc, à une époque où la France était au plus bas. Heureusement, on n'en est pas aussi bas aujourd'hui.
Je crois même qu'on peut inverser, en prolongeant, on peut inverser le raisonnement. C'est-à-dire que la cellule familiale devient un élément protecteur face à un monde en chaos. Cette expression d'un monde en chaos, d'un monde en ruine, est quelque chose qui revient. Il y a une mythologie autour, qui est une réalité par ailleurs, mais il y a aussi une mythologie d'une société de violence, dont les fondements économiques sont menacés. Une société qui s'effondre. Et dans cet univers en chaos, l'agression dans tous les sens du terme et sur tous les registres et partout, eh bien je reconstitue un monde clos dans lequel je me sens bien. Je vous raconte juste une petite anecdote. J'ai rencontré un monsieur merveilleux qui se déclarait très inquiet par l'évolution du monde, qui vient dans la campagne en Normandie, et quand je suis sorti de chez lui, sa maison était entourée de forêts. Et quand je suis sorti de chez lui, il m'a dit « Regardez comme ces forêts nous protègent ». Voilà. C'est-à-dire, le monde est ailleurs, les menaces sont ailleurs, et là, ici, chez moi, dans mon village, je suis protégé par ces forêts.
Jünger, le recours aux forêts. Très beau livre. Moi je veux bien. Alors, on est dans une société bloquée et on réagit par de la frugalité. Ça se traduit notamment par l'idéologie de la décroissance, qui est tout à fait respectable. Par l'idée que, sur le plan du marketing, on le voit bien, on veut l'usage, mais on ne veut plus la possession. Je vois des tas d'études qui montrent que les jeunes Américains, en particulier, n'achètent plus de voitures, parce que ça ne sert à rien, qu'on peut toujours en louer une ou en acheter à une à plusieurs, comme on fait de la colocation dans les grandes villes. Ça se traduit par de la proximité, la famille, l'auto-organisation sur place pour échapper aux grands circuits commerciaux et financiers dont on pense que de toute façon ils sont corrompus. Mais tout ça, encore une fois, ne fait pas une société. Vous nous décrivez une France où les gens ont le sentiment d'être agressés, où ils ont le sentiment que la société est immorale et violente, ne les protège plus, et donc ils se replient sur la sphère privée et sur la proximité, les voisins, la famille, les amis. Mais encore une fois, ça fait peut-être des gens qui sont heureux à leur petit niveau, mais ça ne fait pas qu'on refait nation, qu'on refait une Europe, qu'on refait une société. Ça me paraît, excusez-moi, une idéologie assez réactionnaire.
Alors, cette question est passionnante.
François-Mickey Marty, il y a beaucoup de témoignages. Il y a Mathilde, je repense à moi, je crois que c'est Mathilde.
Cette question est passionnante. C'est-à-dire,
même si au fond une guerre, on ne la veut pas, mais la fameuse ancienne, est-ce qu'une bonne guerre ne résoudrait pas tout ça ?
C'est-à-dire qu'au fond, on a deux tendances fondamentales. Effectivement, celle du repli sur soi et ses proches, et l'autre, qui effectivement peut être extrêmement dangereuse, qui est pour la France, parce qu'on réalise à la fois des enquêtes d'opinion quantitatives et des entretiens, et qui repose sur l'aspiration à trois valeurs. Au fond, la France irait mieux d'abord si nous avions une capacité à mieux éduquer nos enfants, c'est-à-dire au fond à leur donner un meilleur niveau culturel, mais également à leur transmettre des valeurs de savoir-vivre, premièrement. Deuxièmement, si nous réinsufflions la valeur travail, ça rappelle quelques discours politiques. Et puis troisièmement, si la France était davantage ordonnée, c'est-à-dire face au chaos que l'on voit ailleurs, on peut souhaiter un discours d'ordre. Voilà. Tout ceci est extrêmement glissant parce que on voit bien l'usage que peuvent en faire des sensibilités protestataires, extrémistes, et on voit bien à quel point un discours aujourd'hui qui pourrait être entonné sur des valeurs de façon proclamée, de manière forte, pourrait recueillir un écho dans la société française. Donc on est, je crois, aujourd'hui à une époque charnière.
Alors si je puis me permettre, qu'il le recueille déjà, la page 5 du Figaro du jour, le Front National progresse dans tout le pays. C'est Guillaume Bernard, maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures, qui note que l'implantation géographique du FN s'est en effet modifiée, et aujourd'hui le mouvement de Marine Le Pen est surtout puissant dans les petites villes et les villes moyennes, et des communes qui accueillent souvent des classes populaires, des classes moyennes qui ont dû quitter les métropoles en raison notamment du prix du logement. À l'inverse, l'électorat des grandes villes, lui, est souvent hostile au Front National, mais tout de même donc implantation de plus en plus grande du Front National. Et ça répond...
C'est exactement ça. C'est-à-dire, dès lors que nos dirigeants politiques traditionnels apparaissent comme incompréhensibles ou incompris, le discours du Front National qui porte sur des valeurs, lui, est compris. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit cette phrase, je trouve extraordinaire, « Le Front National est avec nous ». C'est-à-dire que le Front National n'est plus une formation d'extrême droite. Il y a des partis politiques d'en haut, loin. Quelqu'un m'a dit par ailleurs, il y a leur démocratie et il y a ma vie. Il y a leur démocratie et il y a ma vie. Je suis ailleurs, leur jeu est ailleurs. Et puis, proche de nous, qui nous comprend, qui nous entend, qui est capable de répercuter une partie des valeurs auxquelles nous aspirons, il y a le Front National.
Agnès Benassi-Karine.
Oui, alors c'est une partie que je trouve très intéressante. Hein. Vous dites que les partis politiques sont loin de la vie quotidienne, ne savent pas parler aux gens de leur vie quotidienne. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un point de blocage essentiel par rapport aux réformes qu'on pourrait mettre en œuvre en France, hein? Je prends un exemple particulier qui est celui de la santé. On a un défaut en France qui est de ne pas montrer de manière claire aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent gagner personnellement. Je ne parle pas de la France, hein. Je peux gagner personnellement d'une réforme du système de santé. Qu'est-ce que vous tirez de ça en termes de moyens d'action? Qu'est-ce qu'il faudrait faire donc pour le parti qui est au pouvoir, pour le gouvernement? Qu'est-ce qu'il pourrait faire concrètement pour améliorer les choses?
François-Mickey Marty.
Je crois, je peux restituer, ce sont des attentes. L'attente première est de partir des difficultés que vivent les gens. Partir de concepts macroéconomiques, tels que la compétitivité ou ce dont vous parlez là, est extrêmement difficile à entrer en résonance avec la vie quotidienne des gens. Partir du quotidien des gens. Et puis, à partir de là, raisonner sur, effectivement, ce qu'ils peuvent en retirer. Au fond, on se souvient quand même du succès de la formule de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Au fond, on avait une articulation auprès de son électorat, mais enfin, c'est quelque chose. On a une articulation entre une promesse concrète, un engagement concret, et puis un bénéfice personnel. Voilà. C'est ce genre de choses qui est extrêmement difficile à construire. Mais, je crois, la raison pour laquelle j'évoquais tout à l'heure les États-Unis, il y a une similarité entre la situation de la France actuelle et la, je crois, et la situation des États-Unis lors de la première campagne de Barack Obama. Barack Obama a construit tout son discours là-dessus. C'est-à-dire, au fond, nous sommes une société où nous n'avons plus trop les codes politiques, mais nous, chacun d'entre nous, en tant que citoyens, nous avons des préoccupations communes. L'éducation de nos enfants, la santé, notre système de santé, comment on va pouvoir être protégé, vivre vieux dans la dignité. Voilà. Tout ça, ce sont des éléments communs à partir de quels construire un discours. D'une certaine manière, l'ambition, qui est une ambition forte, serait de reconstruire un discours politique au sens fort du terme, qui ne soit pas un discours technocratique, mais qui soit un discours politique au sens incluant les valeurs et la vie quotidienne des électeurs qui peuvent voter pour les candidats qui peuvent se présenter à une élection.
Brice Couturier.
Je voudrais prolonger la question d'Agnès Benassi-Kerry qui me paraît absolument cruciale parce qu'il me semble qu'on est dans une spirale du déclin. Quand les gens ont le sentiment qu'on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne, ils sont effectivement réactionnaires. C'est-à-dire qu'ils refusent absolument toute forme de réforme parce qu'ils pensent que même si le gâteau rétrécit, il faut absolument sauvegarder la part qui leur revient. Donc est-ce qu'il n'y a pas là un système auto-entretenu sur le plan économique et social qui fait que le blocage est inévitable quand les gens ne veulent plus que rien ne bouge et qu'ils savent que par ailleurs, si rien ne bouge, le pays va continuer à décliner, eh bien le gâteau va effectivement continuer à décroître. Et chacun va se réfugier de plus en plus sur sa demande d'ordre, sa demande de valeur et sa tonnelle où on est si bien avec les amis.
Je crois aussi que des mutations sont en cours et que ces mutations peuvent indirectement générer, soutenir de nouveaux secteurs d'activité lorsqu'on on donne de l'importance à son quotidien, à sa santé, aux relations avec les autres. Ça veut dire qu'on va être attentif à la qualité de l'urbanisme, à la qualité des constructions, des bâtiments, aux équipements de santé près de chez soi. Au fond, il y a toute une... à la silver economy pour des personnes âgées. Ça peut accompagner aussi un changement beaucoup plus vaste réalisé certes par le pouvoir politique, mais aussi par les entreprises et par les gens eux-mêmes. D'ailleurs qu'au fond, ce qu'on peut dessiner là aussi de manière positive, puisque vous nous y invitez là, ce serait une mutation plus heureuse qui se fasse par la société tout entière vers de nouveaux modes de vie. Et ces nouveaux modes de vie peuvent engendrer de nouveaux secteurs d'activité économique et donc aussi de nouveaux discours politiques.
Un regain de l'autogestion, ça vous paraît crédible ?
Non, très peu. C'est-à-dire l'autogestion au sens des années 70, c'est quelque chose qui est très limité aujourd'hui. On a une aspiration, en revanche, à une reconnaissance dans l'entreprise.
Non, parce que articuler le discours des valeurs et celui de la performance économique, c'est tout le jeu du tiers secteur associatif, de l'économie solidaire, etc. Et ça se développe beaucoup parce que les jeunes veulent s'investir un travail qui ait du sens. Et celui-là, il en a.
Et qu'il en a, dites-vous, François Martin, pour surmonter le consumérisme.
Oui. L'autogestion a soulevé des difficultés d'organisation. On fait un premier pas, alors peut-être vers des formes d'autogestion, mais on fait, je crois, un premier pas très important dès lors que l'on accorde une reconnaissance au travail. C'est-à-dire, au fond, c'est-à-dire une forme de respect sur le lieu de travail. D'ailleurs, j'ai eu, là aussi, dans les entretiens individuels, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, sur mon lieu de travail, je suis du vent. C'est-à-dire que je n'existe pas. Donc avant de parler d'autogestion, mieux vaut aller au-delà du vent, être reconnu en tant que personne sur un lieu de travail, pour pouvoir ensuite peut-être construire de nouveaux modes de gestion de l'entreprise.
Alors, un exemple notamment de ce qui fonctionne en temps de crise, ou que même la crise a permis de faire exister, c'est notre stagiaire Claire Duisabot qui a fait l'entretien du directeur général du site internet leboncoin.fr, grand succès si l'année, justement, de ces années de crise. Écoutez donc Olivier Hézard au micro de Claire Duisabot, patron du site leboncoin.fr.
La crise a accéléré le développement de nouveaux usages, et notamment de ce que l'on peut appeler la consommation solidaire. Quand on interroge nos utilisateurs sur les raisons qui les amènent à utiliser le site, ce qu'ils mettent en avant, c'est ce côté passage de relais, ce côté consommation solidaire. Et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de modes de fonctionnement qui constituent un effort quand tout allait bien, qui deviennent plus naturels parce qu'on a plus de contraintes. Nous, ce qu'on constate, c'est au contraire une vraie confiance entre les particuliers. On est sur un marché spécifique, c'est-à-dire que la vente entre particuliers, il n'y a pas de notion de satisfait ou remboursé, il n'y a pas de service après-vente, et on est sur des objets qui ont déjà été utilisés, qui peuvent être un petit peu cabossés, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la confiance, et basé sur mon voisin est une personne en qui j'ai confiance et une personne de qualité.
Voilà, Olivier Hézard, directeur général du site leboncoin.fr, au micro de Claire Duisabeau, François-Michel Marty.
Oui, alors effectivement, c'est une tendance que l'on voit se développer. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas cela qui génère de la croissance et du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'au fond, sous diverses formes d'ailleurs, il y a le troc, les achats en commun, les achats solidaires, l'idéalisation d'une communauté, le bonheur sous la tonnelle, tout ça n'entraîne pas à court terme une relance du pouvoir d'achat. Mais ce sont des mutations qui sont fortes. Dans le court terme, elles peuvent entraîner des impacts économiques plus porteurs, je crois, à moyen terme.
Vous avez, vous, le dernier numéro de Sciences humaines,
qui était « Vivre en temps de crise ». Non, c'est pas le dernier, mais je le recommande vivement. Évidemment, je recommande le livre de François-Michel Marty, comme vous, Marc, « Les nouvelles passions françaises ». Mais il y a eu un très bon dossier de sciences humaines, « Vivre en temps de crise », qui date d'un peu plus d'un an déjà, mais qui était extrêmement complet et qui va exactement dans le sens de ce que vous écrivez. Il n'y a pas de contradiction.
Alors, est-ce qu'on arrive, comme vous le dites à un certain moment, à la fin d'une séquence, mais d'une très longue séquence, dont vous donnez la date de fin? Alors, quand même, est-ce que là, sur ce coup-là, la date n'est pas un peu arbitraire? Je voudrais rappeler tout de même ce que disait Myriam Revaud-Allonne dans La crise sans fin, qu'elle publie au Seuil. Le présent, François-Michel Marty, le présent est toujours opaque à lui-même. Vous faites une séquence en disant, voilà, fin du modèle français, début 1789, fin 2011. Je ne caricature pas, vous l'écrivez tel quel. François-Michel Marty.
Oui, je crois qu'effectivement, la crise économique de 2008 et ses conséquences ont entraîné une cassure, une accélération des références au modèle français. Alors, c'est quoi le modèle français? C'est d'abord l'idéal d'un progrès continu pour la société française tout entière, depuis la Révolution. C'est, en deuxième lieu, un idéal républicain d'une école qui nous porte et qui va assurer un mieux-être, un mieux-vivre par le savoir pour nos enfants. Et c'est, en troisième lieu, un idéal de protection sociale, par la sécurité sociale et toutes ces règles, qui nous assure un minimum de sécurité. Voilà. Aujourd'hui, tous ces éléments-là sont mis en cause. Parce qu'au fond, l'idée d'une société française qui irait toujours vers un avenir glorieux, plus optimiste, plus conquérant, est quelque chose qui a pris l'eau. Parce que l'école apparaît de moins en moins comme un vecteur de progression sociale, et parce qu'on assiste à des menaces, à des craintes, à des doutes sur la pertinence du modèle social français. Et je crois que la crise de 2008 a multiplié les interrogations là-dessus, parce qu'on constate aujourd'hui qu'on peine de plus en plus à financer l'ensemble de ces éléments-là. C'est-à-dire que face à la crise financière de ces constituants de notre identité, on commence à penser qu'il faudrait peut-être faire autre chose. Et l'idéal, je crois que c'est ça qui est très intéressant à travers ces échanges avec des Français de différents horizons, au fond, l'idéal se redéfinit à travers du local. Et dès lors que l'on reconstruit de nouveaux idéaux à travers le local, ça veut dire qu'on est à mille lieues des idéaux, des révolutionnaires. Rousseau n'est plus là du tout.
Oui, l'universalisme républicain...
L'universalisme a disparu.
Il a disparu.
Il ne s'agit plus de construire...
Tandis qu'on le reconvoque, pardon de faire une parenthèse comme ça, mais tandis qu'on le reconvoque tout de même, à l'occasion, si j'ose dire, des débats sur la Syrie. En même temps, on débat autour, en tout cas, on va dire. Faut-il intervenir ou pas au nom de notre universalisme? Il y a un paradoxe, là, mais qui est dû sans doute à l'actualité. Une règle.
Puis qui traduit une volonté d'intervention militaire. Mais les idéaux, en termes de valeurs de société, ne sont plus des flambeaux collectifs propres à la France qu'elle pourrait faire prévaloir sur toute la planète. Les idéaux, en termes de valeurs de société, et ce n'est pas de l'individualisme, sont des idéaux à faire valoir dans mon quotidien avec mes proches. On est aux antipodes. Je crois que l'idée d'un individu égoïste est fausse en réalité.
Oui, vous taquinez là-dessus en première partie, vous insistez vraiment là-dessus.
Oui.
Ça n'est pas de l'égoïsme.
Non, ça n'est pas de l'égoïsme.
Ce n'est pas de l'individualisme forcené.
Il est très frappant de constater l'attachement à des valeurs collectives. Alors, la famille, les autres, c'est ce que Martine Aubry avait appelé le care, d'une certaine manière. Ouais. Lorsqu'on parle de respect, je pense qu'il faut aussi bien s'entendre sur les termes. Ouais. Il ne s'agit pas du respect au sens traditionnel. C'est un respect au sens de la prise en compte de l'autre. Ça veut dire qu'au fond, dans mon environnement du quotidien, là où je peux le faire, j'ai l'ambition d'avoir une attention pour l'autre. Et bien évidemment, on sort de l'universalisme à la française qui voudrait rayonner sur la planète entière. C'est peut-être, dans une version positive que nous recherchons ce matin, c'est peut-être un chemin qui peut-être porteur. C'est-à-dire qu'au fond, là où je vis, je suis en mesure d'aménager un... Je suis en mesure de le faire vraiment. D'ailleurs, j'ai l'ambition est peut-être moins forte que celle des Lumières, de Diderot ou de Voltaire, mais j'ai une ambition que je suis en mesure de mettre en œuvre dans mon quotidien, là où je vis. Et il est très frappant d'observer aussi le travail réalisé par des municipalités, qui au fond aménagent des lieux de vie. On a des idéaux dans les grandes villes aujourd'hui qui sont d'une certaine manière une décomposition de la grande ville à travers des villages. C'est-à-dire au fond faire un bonheur, réinventer une société, réinventer des tissus de proximité, où enfin nous soyons heureux.
Oui, on revient.
Bon, c'est l'émission optimiste de la rentrée. Hein,
oui, on revient aux origines de la crise, hein, parce que la crise, vous nous dites, c'est ça la grande nouveauté de votre livre, François-Miguel Marty, c'est que les gens ne croient plus que la crise est économique et financière, ils pensent qu'elle est sociétale et morale. Or, en fait, l'origine de la crise, c'est quand même l'impudence de la finance. C'est effectivement des gens qui se sont crus affranchis de tout respect envers autrui, de tout respect envers les règles. Et c'est ça aujourd'hui qui est ressenti comme insupportable.
Le mot crise, à l'origine, dans la langue latine, signifiait un jugement. Dans la langue grecque aussi, un jugement. La crise, c'est lorsqu'on apporte un jugement décisif sur une situation de grave maladie, par exemple. Et je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est précisément une difficulté à porter du sens. Dès lors qu'on considère que les interprétations qui ont été données des difficultés économiques jusqu'ici ne sont plus pertinentes, eh bien, il faut inventer un autre sens. Je crois que c'est ce qui est en cours en ce moment.
Alors, j'évoquais tout à l'heure, parce que ça fait partie de l'actualité, nous avons toujours décidé qu'ici, il fallait soutenir les publications quand elles naissent dans ce qu'on appelle la crise de la presse. Mais il se trouve que nous n'avons pas allé bien loin, nous, pour parler de cette nouvelle parution. Je fais évidemment référence au Lui, qui ressort aujourd'hui en kiosque, dirigé par Frédéric Becbédé, parce qu'au fond, encore une fois, faut-il y voir une métaphore de quelque chose qui voudrait donner, ou se donner l'air que nous allons bien et que nous pouvons repartir au fond dans la gaudriole et le dévoilement des corps de ces jeunes filles que l'on voit dans Lui, enfin cela dit qu'ils n'ont plus rien à envier maintenant aux pages des journaux de mode en général, que ce soit Vogue à Vanity Fair et j'en passe. Mais enfin, Lui, c'était au fond le symptôme d'une France qui allait drôlement bien à une époque Brice Couturier. Alors je peux dire, sans vous froisser, vous en êtes d'accord, vous avez été rédacteur-chef de Lui à une époque.
Oui, j'ai été rédacteur-chef de Lui.
Est-ce que vous croyez à la renaissance de Lui?
Une anecdote marrante. Parce que c'est Becbédé à qui on confie la ressortie de cette publication. Or, il se trouve que moi, quand j'étais rédacteur en chef de Lui, entre 90 et 92, ça n'a pas duré longtemps, deux ans, chez Chevauchel Tic, chez Philippe Aki, j'ai fait travailler Becbédé comme pigiste, figurez-vous.
C'est donc grâce à vous qu'il est aujourd'hui à
la Je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne m'a pas fait signe pour que je repige, moi, mais ça aurait été drôle. Je me souviens, entre autres, qu'il m'avait fait une proposition de loi extraordinairement bien imité, parce qu'à l'époque il était du côté de la parodie, il avait imité une proposition de loi de l'Assemblée nationale pour la réouverture des maisons closes dont il était l'auteur, et c'était paru dans Lui en 90 ou 91, je me souviens plus très bien, mais donc Becbédé, je le faisais travailler comme pigiste à l'époque, il était vraiment gamin.
Alors sans vouloir vous froisser tout de même, à l'époque où vous vous occupez de Lui, c'est déjà quand même un peu la fin du journal, c'est la période de gloire, c'est les années 70-80.
Oui, évidemment, enfin, époque de Lui, c'est pas moi, c'est Lanzmann, hein, c'est le Lanzmann de Jacques Dutronc.
C'est l'époque du fauteuil à l'osier de Sylvia Christel.
Bien sûr. Mais moi, j'avais proposé à Philippe Aki, qui n'en a pas voulu, un projet de reconversion de ce magazine en généraliste masculin. Et Philippe Aki m'a dit, des généralistes masculins, il n'y en aura jamais en France. J'ai essayé avec Adam, ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. Je lui ai dit, écoutez, c'est curieux, il y a GQ, il y a Esquire, pourquoi en France ça ne marcherait pas? Il m'a dit, parce que c'est comme ça. Voilà. Donc, il n'a pas voulu de mon projet. Et puis maintenant, Lui ressort. Je suis très, très, très curieux de voir ce que ça va donner.
Je vois le jeune Conquet qui veut tout d'un coup parler de Lui.
Vous savez aussi qui a été formé à Lui et qui est passé par Lui, c'était très important pour lui, c'est René Château. L'éditeur
vidéo, René Château, notamment.
Producteur de cinéma de Belmondo, notamment.
Donc vous y voyez un symptôme, vous, dans cette parution de Lui, qui correspondrait à vos thèses, François-Miguel Marty, qui publiait très sérieusement chez Michelon et dans la revue Esprit de ce mois d'août-septembre 2013.
Alors, je ne sais pas s'il faut y voir un...
Parce qu'après tout, vous faites feu de tout bois. Après tout, vous circulez dans la France, vous voyez les gens, vous faites comme ce que certains appelleraient presque une sorte de micro-trottoir, évidemment bien plus élaboré, mais vous allez voir, tout fait symptôme dans la lecture de la société d'aujourd'hui. Donc est-ce que là, il y a un symptôme qui vous paraît positif ou qui ne l'est pas du tout?
Il peut y avoir un effet, effectivement, de miroir par rapport à des personnes qui ont envie de parler de la vie des gens et de leur situation au quotidien.
Votre prochain travail, ça sera sur quoi? Comment est-ce que vous comptez prolonger ces nouvelles passions françaises? Parce qu'au fond, on voit bien que ça se situe dans des références que je donnais tout à l'heure. Il y a eu la fameuse l'anthologie très gros livre de Zeldin, la très grosse étude de Zeldin sur les passions françaises qui, au fond, décelé ce qui tout de même perdure chez nous, à savoir qu'on se plaint tout le temps, on n'est jamais content, et que, qui plus est, ça s'est renforcé, dites-vous, il y a cet effet d'autodérision ou de dérision sur nous-mêmes, oui, qui d'ailleurs donne du grain à moudre, si j'ose dire, aux étrangers, avec ce qu'on appelle le fameux French bashing. Oui. Ça, c'est quand même un symptôme très important dans l'idée que nous n'allons pas bien, c'est qu'on n'arrête pas de se moquer de nous-mêmes, ou est-ce que c'est plutôt un signe de bonne santé?
Oui, il y a à la fois l'autodérision et en même temps la critique d'un excès d'autodérision. Donc oui, on peut imaginer qu'à terme, ça. Oui. Voilà, ça n'en finit jamais.
On rit aux guignols, mais on critique les guignols de rire de la sphère politique, par exemple. Voilà. Et tout le monde regarde les guignols.
Et tout le monde regarde les guignols. Bien sûr. Donc je crois que la suite à donner, tout simplement, consiste à écouter. Ce qui est très frappant, c'est que ces évolutions, ces mutations sociales et économiques se font de façon totalement, bien évidemment, non préméditée par quiconque. Et donc, le travail qui peut être fait, c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de ces travaux-là, le travail qui est à faire, eh bien, tout simplement, est d'écouter, pour voir, écouter des personnes de tous horizons, pour voir comment évolue la société française et comment elle se recompose, peut-être bien loin de projets politiques que l'on entend couramment.
Donc vous voulez faire lire ce livre aux politiques?
Non, je pense qu'il est très frappant de constater que dans un univers où l'on pense maîtriser beaucoup de choses, eh bien les mutations se font d'une certaine manière par elles-mêmes.
Merci François Michel Marty. Je rappelle les nouvelles passions françaises chez Michalon. Et puis on peut vous lire donc entre autres dans le dossier à quoi servent les partis politiques de la revue Esprit de septembre 2013. Quelques notes de piano, vous l'avez entendu, pour vous signaler que depuis hier et jusqu'au 30 septembre se déroule à Toulouse le festival piano aux Jacobins. Ce soir, le jeune prodige Keith Armstrong. Et puis samedi à 20h, l'immense Boris Berezovsky à Toulouse. Ce